L'espérance ne déçoit pas, tel est le titre de ce petit ouvrage à glisser dans ses bagages pour les vacances de février, pourquoi pas. Cette déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France vient apporter à ses lecteurs, catholiques ou non, quelques repères de discernement sur la vie sociale et politique. Pour nous éclairer sur ce texte, nous accueillons ce matin le père Arthur Deleffe du diocèse de Toulouse. Bonjour père.
Bonjour Isabelle.
En quoi l'Église, déjà fragilisée, voire décrédibilisée quand même par les scandales d'abus sexuels, est-elle légitime pour intervenir dans la sphère publique ?
Alors c'est une bonne question parce que en venant, je pensais au pape qui, il y a quelques années, avait dit « voilà, l'Église est experte en humanité ».
C'était Paul VI.
Exactement. Et donc c'est difficile aujourd'hui de dire la même chose. Voilà. Mais donc c'est les évêques eux-mêmes hein, qui disent « voilà, l'Église a failli, c'est un fait ». Et en même temps, eh bien, le Christ nous demande de témoigner, nous demande de humblement, pauvrement, de présenter eh bien, ce que nous percevons comme la vérité qui nous entraîne vers des chemins nouveaux. Donc ça reste vrai encore maintenant. Voilà, c'est Saint Paul hein, qui disait nous portons un trésor dans des vases d'argile. Eh bien, voilà, on est toujours là, humblement, encore une fois, à présenter ce trésor.
Est-ce que pour autant l'Église peut être assimilée à un parti ? Est-ce qu'on pourrait dire, les catholiques vont tous voter dans ce sens-là ? Est-ce qu'il y a un vote catholique ?
Alors, non. Et je crois que c'est très important pour nos auditeurs de redire que l'Église n'a pas un corpus idéologique comme avec une espèce de liste de choses qu'il faudrait faire, pas faire, des choses pour lesquelles il faudrait voter ou pas voter. Le principe dans l'Église, hein, c'est de dire... C'est Jésus, donc c'est une personne qui est la vérité. Et donc, chacun de nous, eh bien, on essaye d'aller vers lui, de découvrir la vérité qu'il porte. Alors, il y a des vérités, du coup, un peu objectives, mais elles ne précèdent pas la présence de Jésus. Et donc, ça veut dire que très souvent, on entend, alors moi, j'ai entendu souvent sur les médias, si vous êtes pour le mariage pour tous, quittez l'Église. Si vous êtes pour l'avortement, quittez l'Église, vous êtes, etc. C'est-à-dire comme s'il y avait... une espèce d'enfermement dans des idées précises. Voilà, l'idée, c'est plutôt, encore une fois, l'Église, en tout cas, elle appelle à regarder Jésus, à en tirer des vérités, et puis chacun, avec sa conscience, eh bien, va chercher le parti ou le candidat qui lui paraît être le plus à même de porter ce que sa conscience lui donne comme le plus important. Voilà, et donc la réalité, c'est que depuis toujours, en fait, l'Église, si on regarde, il y a régulièrement des sondages, et on voit bien que chacun vote dans son parti, et c'est pas forcément les mêmes, et c'est plutôt sain, en fait.
Oui, voilà. Oui, il n'y a pas un vote catholique.
C'est ça, et ça montre justement que on a des théologiens qui disent ça comme ça, ils disent la vérité est symphonique, c'est-à-dire que la vérité, c'est comme plusieurs mélodies qui s'entremêlent, et donc chacun, on a une mélodie qui nous paraît plus importante que les autres, et c'est
et
ça qui va déterminer. Qui forme un ensemble harmonieux, il n'y a qu'une vérité, mais elle est faite de plein de petites sensibilités, et donc chacun va, en fonction de sa sensibilité, choisir un parti qui va jouer plus.
Le père Stala Bourdillon, qui est ancien aumônier des parlementaires et aujourd'hui directeur du service pour les professionnels de l'information au diocèse de Paris, invite, je le cite, malgré tout, à donner du crédit à ceux qui briguent les suffrages sans pour autant se laisser illusionner par les promesses et les postures. Est-ce que ça pourrait être une invitation, malgré les candidats qui peuvent ne pas nous convenir, à adopter une posture confiante face à la politique ?
Oui. Moi, je sens chez les chrétiens et chez les non-chrétiens d'ailleurs une forme de très grande méfiance vis-à-vis des politiques. C'est très vrai dans l'Église des pratiquants, on va dire, qui ont eu le sentiment d'être plusieurs fois méprisés, pas entendus. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, pour être entendu des politiques, il faut faire des choses violentes. Si on ne fait pas du violent, si on fait juste des manifestations, si on fait des pétitions, ça ne sert à rien. Et que ces politiques, de toute façon, vivent complètement séparées de notre sphère et que ils dirigent sans nous et avec une espèce de tentation d'être de plus en plus dur, de plus en plus à imposer leur point de vue, etc. Donc ça, c'est le sentiment général. Néanmoins, alors c'est les évêques qui nous disent dans leur livre, justement, attention, ne pas, justement, c'est parce que chacun s'engage en politique que le politique, du coup, respecte le peuple, en fait. C'est un peu ça l'idée. Et donc, voilà, c'est un acte de foi, difficile, mais à faire nécessairement. Voilà, en se disant que finalement, ces hommes politiques, ça reste des êtres humains normaux. Voilà. Et puis, il y avait l'abbé Grosjean qui disait une chose qui était très juste. Il disait, en fait, les hommes politiques sont des gens qui, c'est un monde qui est très violent, très difficile. Et ce sont des gens qui ont beaucoup sacrifié pour leur vie politique, voilà, pour être élus. Et au fond, s'ils ne sentent pas que le peuple, et que le peuple, on va dire des chrétiens, là, puisqu'on est à Radio Présence, que le peuple des chrétiens et le peuple en général les porte, les soutient, s'intéresse à ce qu'ils font, eh bien, le bénéfice entre le sacrifice qu'ils ont fait et ce qu'ils portent ne est déséquilibré. Et du coup, ça fait des hommes politiques qui sont déséquilibrés.
Donc vous invitez quand même à un certain engagement, hein. On le voit bien avec la crise sanitaire qui a révélé des fractures et suscité de la violence dans notre société. La période électorale peut-être serait-elle propice à une prise de conscience et en fait un engagement de chacun.
Oui, c'est ça. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que il y a en fait une élection, c'est voter, mais en réalité c'est un rappel que chacun a trouvé sa place dans notre société actuelle avec toutes ses limites et donc que chacun doit s'engager. En fait, une société qui va bien, alors souvent, ce que vous disiez il y a 5 minutes, c'est souvent on a l'impression qu'il y a un homme politique qui va tout gérer. La réalité, c'est qu'une société qui va bien, en fait, chaque étage joue son rôle. Et donc, une élection présidentielle nous rappelle aussi que nous, à notre niveau, dans notre travail, dans notre famille, avec nos amis, etc., eh bien, on a un rôle politique à jouer, c'est-à-dire au sein de la police, au sein de la cité, pour que tout fonctionne. Et donc, oui, ça nous rappelle l'engagement.
Vous disiez, Père Arthur Delève, que certaines personnes que vous croisiez étaient peut-être un peu désabusées. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une tentation de chercher parmi les candidats un candidat idéal, une sorte de sauveur. La Conférence des évêques de France appelle-t-elle à voter pour l'un ou l'autre de ces candidats?
Alors, la Conférence des évêques de France, d'abord, ça fait partie un peu du contrat avec l'État, hein, que l'Église ne se mêle pas de politique. Donc, elle va certainement pas donner un parti. Et puis même c'est dans ses principes. Encore une fois, au nom de cette symphonie de la vérité, et qui fait qu'aucun parti en réalité même si c'était le pape qui montait son parti, eh ben ça ne serait pas un parti 100% chrétien, même s'il y aurait évidemment beaucoup d'éléments quand même. Donc il y a pas de candidat spécifique.
Alors que le catéchisme de l'Église catholique indique que l'exercice du droit de vote est une exigence morale, les évêques de France désapprouvent l'abstention, mais indiquent quand même que la décision de voter blanc peut avoir du sens. Comment peut-on comprendre ces recommandations?
Alors, je pense que c'est les évêques prennent acte du fait quand même que notre démocratie est malade. Ils le disent si on regarde les textes, je suis allé voir un petit peu les textes, vous voyez, donc eux-mêmes font référence à des textes qui sont écrits même en 2007. Et en fait, ce qu'on voit quand même en ligne de fond, c'est cette crise du politique et le fait que de gouvernement en gouvernement, il y a des évolutions dans notre organisation sociale qui sont pas forcément bonnes, et donc voilà, ils comprennent, ils sont prêts à intégrer le fait qu'il y a des gens qui vraiment ne s'y retrouvent pas, et donc ben voilà, le vote blanc du coup a du sens dans ce sens-là justement. Alors il n'est pas comptabilisé et c'est dommage, mais du coup c'est un débat à avoir. Mais voilà, reconnaître en tout cas que quelqu'un puisse être dans un sentiment d'impasse, oui. Par contre, ne pas aller voter, ça ils le disent bien, se retirer de la vie publique, non. Voilà, il faut, on y retourne, on va voter, et puis ben, si on vote blanc, on vote blanc, mais en tout cas, on ne peut pas juste dire ben, c'est tous des pourris et moi je me retire de la vie sociale.
Oui, en se désengageant. Ouais. Quel conseil donneriez-vous pour aider au discernement avant de voter?
Alors, c'est vrai que c'est difficile. Alors ce qu'on repère, c'est que en tout cas plus on avance, plus ces campagnes deviennent très émotionnelles. Et donc au fond, ce que disent les évêques, hein, que l'enjeu c'est de revenir à des questions de fond. Et je crois que l'Église, qu'elle peut apporter, eh bien c'est ce qu'on appelle l'anthropologie, c'est-à-dire la vision de ce qu'est l'homme, de ce qui est important pour lui. Alors l'exemple typique, c'est, puisque c'est brûlant actuellement, c'est les maisons de retraite. Si on avait interrogé l'Église, ou en tout cas la théologie de l'Église, sur comment accompagner une personne âgée dans la situation sanitaire dans laquelle on était, dans une maison de retraite, etc., l'Église aurait eu beaucoup de choses à dire, en fait. Voilà, donc l'Église, elle a apporté voilà, ce que c'est qu'un être humain, ce qui est nécessaire pour lui, et en réalité, si on a une idée un peu claire, eh bien ça donne de manière très concrète des éléments en termes d'éducation, en termes d'économie, en termes de justice sociale. Donc l'enjeu, c'est de se former. Enfin, ça, c'est le premier enjeu, se former, de manière à sortir de l'émotionnel, voilà, ne pas être trop attentif aux cris, aux pleurs et aux grincements de dents, mais plus, voilà, mais plus au contenu objectif. Même si parfois le contenu, j'en discutais avec plusieurs personnes qui me disaient, en fait, on repère des personnalités, on n'arrive pas à repérer les programmes. Voilà. Donc, c'est, première chose, se former. Deuxième chose, essayer de penser au long terme. C'est-à-dire, on voit que les hommes politiques sont très pris par l'événement. Alors, typiquement la crise sanitaire, l'Ukraine, les enjeux économiques, le Mali. En fait, ça, c'est des choses qui se jouent à 1 ou 2 ans. Mmh. Voilà. Or, l'enjeu d'un bon politicien, c'est en fait d'aider le pays à avoir une vision, c'est-à-dire un but, une orientation, quelque chose vers lequel on tend. Voilà. Un homme politique pour lequel on se dit, ben, lui, dans 10 ans, sa France, ben, on n'en sait rien. Voilà. Ça manque un peu de solidité. Voilà. Je dirais ça. Donc, se former. Pour sortir de l'émotionnel et puis réfléchir à long terme. Voilà.
D'accord. La déclaration « L'espérance ne déçoit pas » donc de la Conférence des évêques de France propose 7 thèmes de réflexion qui vont de la défense de la vie à l'écologie en passant par le respect de la fraternité, l'éducation, la place des religions. Et à la fin de chaque chapitre, il y a 3 petites questions pour aider au discernement. Est-ce que vous voudriez en 2 minutes nous donner quelques éclairages sur ces chapitres?
Sur les 7 thèmes.
L'un ou l'autre.
Oui, bah, enfin, voilà, c'est simplement l'idée des évêques, c'est, encore une fois, c'est de nous donner des lieux qui nous paraissent plus centraux actuellement. Donc, la question de la justice, la question du respect de la vie, pour les plus petits, donc c'est aussi la question de l'avortement derrière. Pour les plus âgés, c'est aussi la question de l'euthanasie. C'est l'enjeu du lien social dans une société qui est extrêmement fracturée, donc ça, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, voilà, donc quelle politique va permettre de reconstituer notre société. C'est aussi la question des violences, de la violence latente par rapport à la police, par rapport à même aux pompiers, mais aussi dans la rue, etc. Donc c'est, voilà, c'est un petit peu ces différents points qui paraissent être plus importants. Et encore une fois, qui vont aider à faire le discernement. Oui, et juste du coup, pour terminer, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, donc chacun de ces points, vous voyez, on va dire que c'est assez humble ce que disent les évêques. Ils disent non, on n'est pas là pour révolutionner le monde. On est là simplement pour que la France aille mieux avec ce qu'est un homme politique président, c'est-à-dire quelqu'un qui est là surtout pour assurer finalement une paix, une forme de justice, et pas pour tout révolutionner. Et c'est vrai qu'on a tendance à ce que vous disiez tout à l'heure, à rechercher un homme politique qui soit un sauveur. La réalité, c'est que ça ne sera pas le cas.
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Le seul sauveur, c'est Jésus. Voilà. Et donc il faut aussi remettre les hommes politiques qui sont toujours dans la surenchère de ce qu'ils vont promettre. La réalité, c'est qu'il faut juste les remettre à leur place, en fait, c'est-à-dire une place humble. Voilà, on sert la France, mais on va pas tout changer. Voilà, ça c'est sûr.
Merci beaucoup, Père Arthur Deleft, de nous avoir éclairé sur ce document de la Conférence des évêques de France. L'espérance ne déçoit pas pour les prochaines élections.
Merci à vous.